Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
L'enquêteur du paranormal.
Lui-même.
Christian Page est avec nous. Hey, précision, j'ai dit tout à l'heure, j'avais un doute sur l'anniversaire du décès de René Angélil. C'est bel et bien son décès qui avait lieu en ce jour de 2016, le 14 janvier, non, ses funérailles.
Voilà.
Voilà, ça c'est réglé. Événements qui ont mené à l'exorciste.
Oui, en fait, ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on le sait, les auditeurs le savent, j'anime une chronique dans l'émission de Bernard Drainville les vendredis après-midi à 14h30, où je présente une actualité insolite. On va essayer ici, les dimanches, de se démarquer de manière par rapport à cette chronique, où je vais te présenter des éphémérides. Là, on est en janvier, donc on va fouiller dans les livres d'histoire, regarder des événements insolites et mystérieux qui se sont produits en janvier, par exemple, ou peu importe la période où on fera la chronique, et on va essayer de décanter ces informations-là, qu'est-ce qu'on en sait, puis ouvrir une discussion autour de ça. Ça te convient comme ça?
C'est parfait.
Donc, si on regarde dans cette période de janvier, ben écoute, on a un 3 janvier 1945, c'était la mort d'Edgar Cayce. Donc, pour les gens qui s'intéressent aux phénomènes mystérieux, étranges, à la voyance, Edgar Cayce est une espèce de voyant moderne, un prophète moderne. En fait, on le surnommait le prophète endormi. C'est un individu qui était né au Kentucky, qui n'avait pas une formation académique particulière, pas très instruit, pas très éduqué, mais lorsqu'il était en transe ou dans des espèces de périodes de sommeil, il faisait des prophéties. Il pouvait même, dans certains cas, il était reconnu pour ça, en fait. Il donnait des conseils médicaux. Donc, les gens allaient le voir. Il y avait littéralement un cabinet de consultation. Les gens allaient le voir souffrant de toutes sortes de maux. Et là, ce Edgar Cayce se mettait dans une espèce d'auto-transe. Et là, non seulement pouvait... Ça serait différent aujourd'hui avec le Collège des médecins.
Ça, c'est clair.
Il faisait des espèces de diagnostics. Et là, proposait des médicaments, souvent des concoctions qui étaient de l'ordre du médicament de la grand-mère, et ça fonctionnait.
Comme un druide.
Voilà. Voilà. Et ce Edgar Cayce s'est acquis une réputation extraordinaire. Et c'est donc le 3 janvier 1945 qu'il va décéder. Il a laissé derrière lui un héritage important, de très nombreux écrits, de prophéties, de visions. Ben, s'il était bon pour trouver des médicaments, il était moins bon, par exemple, pour prédire l'avenir, parce que bon, il avait annoncé dans les années 60 la découverte de l'Atlantide.
Ah oui.
Qu'on cherche toujours. Donc, c'était le 3 janvier 1945. Si on reste toujours dans ce mois de janvier, en janvier 1932, éclate dans la presse britannique l'affaire de la mangouste parlante. Non! Connais-tu la blague du gars qui se présente chez un promoteur de spectacle? Il lui dit, écoute, j'ai un chat qui chante, un chien qui joue du piano.
Non.
Là, le type, il dit, ben écoute, je suis curieux de voir ça. Le type sort ses deux animaux. Le chien se met à jouer du piano. Le chat se met à chanter. One since my baby left. C'est un répertoire Elvis. Et là, après l'avoir entendu, le promoteur dit, écoute, c'est incroyable. Il doit y avoir une fraude là-dedans. Finalement, le type dit, oui, c'est vrai, il y a une fraude. C'est pas mon chat qui chante, c'est mon chien qui est ventriloque.
La mangouste. Faire quoi avec la mangouste?
Et tu vas le comprendre, l'affaire de la mangouste parlante ressemble un peu à cette histoire. C'est, on est en 1932, janvier 32, la presse évoque que dans l'île de Man, ça se trouve en mer d'Irlande. C'est une île importante là qui sépare l'Irlande de l'Angleterre.
On les a beaucoup d'entrepreneurs, ils connaissent très bien l'île de Man.
Voilà.
C'est un paradis fiscal.
Oui. Oh, tu m'arraches les mots de la bouche! Donc, dans l'île de Man, il y a cette histoire-là qui avait débuté en septembre 1931. Donc, ça... Mais l'affaire n'avait pas débordé de l'île. C'était des gens qui disaient que leur maison était hantée. Et en fait, c'est une famille, la famille Irving. Donc, on a les parents et on a une fille qui s'appelle Valerie, une adolescente, une préadolescente. Et là, ils disent que la maison est hantée, la ferme est hantée, mais pas par n'importe quoi. Par une mangouste, oui, je dis bien, une mangouste originaire de l'Inde qui se manifesterait et aurait une voix. Elle parlerait. Donc, la mangouste parlante, ça semble ridicule. C'est comme dire, ma maison est hantée par un chat parlant.
Et là, pour ceux qui se posent la question de mangouste, c'est quoi? C'est comme une belette.
Oui, c'est sûr. C'est dans la famille des belettes, des... c'est ces petits animaux, un furet.
Un furet,
s'imaginer, ça ressemble
à un vison.
Ouais. Et là, elle me dit, bon, ben, c'est... Et c'est surtout cette préadolescente qui parle avec le furet, le furet d'outre-tombe. Et là, il fait toutes sortes de prédictions. Évidemment, l'histoire va déborder l'île de Man. Et c'est comme ça qu'en janvier 1932, la presse britannique va s'emparer de cette histoire. Il y a toutes sortes de chercheurs en parapsychologie qui s'intéressent aux phénomènes étranges, qui vont se rendre à la ferme des Irving pour pouvoir parler, échanger avec la mangouste parlante. Et la plupart d'entre eux, crois-le ou non, vont revenir un peu déçus.
Elle parle pas?
Non, ils sont plutôt persuadés que c'est la fillette de la famille Irving, Vore Irving, qui en fait a des dons de ventriloque et qui aime faire croire que les murs de la maison ou les meubles parlent de cette voix de mangouste indienne ressuscitée du pays de l'au-delà. Mais en fait, l'affaire semble être une fraude. Et pourtant, cette fille, Vore Irving, va décéder dans les années 90 en disant qu'elle n'a jamais été à l'origine de cette voix-là. Donc,
elle a tient son histoire, je trouve.
Elle a tient son histoire. Vraiment, il y avait cette manifestation un peu mystérieuse qui se produisait. Mais bon, ça a pas fait histoire dans l'univers du paranormal.
Mais tu sais, la personne qui est ventriloque veut pas, même si les lèvres ne bougent pas, le son sort quand même d'elle. Donc, si tu t'approches de la personne, techniquement, tu devrais comprendre que c'est elle.
Et il y avait une particularité dans la maison, dans la ferme des Irving. Les enquêteurs avaient remarqué que à plusieurs endroits de la maison, pour l'isoler, il y avait des sortes de doubles cloisons. Et ces doubles cloisons faisaient un peu comme des canaux à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas si tu as vu des films genre... je pense qu'il y en a deux ou trois de ces films d'horreur où des gens vivent comme à l'intérieur des murs de la maison parce qu'il y a des doubles cloisons. Ben, c'était un peu comme ça le modèle de la ferme des Irving. Et les enquêteurs disaient que c'est facile pour quelqu'un de se placer à un endroit de la maison, parler dans ce corridor-là, et on a l'impression que la voix résonne partout dans la maison. En fait, l'histoire de cette mangouste parlant, je sais que je ne t'étonnerai point, mais c'était probablement une fraude.
Ah, OK. Elisa Lam.
Elisa Lam, ça, c'est une histoire assez curieuse. On en parle encore beaucoup sur les forums qui se consacrent aux phénomènes paranormaux. On est le 26 janvier 2013. On a cette étudiante d'origine chinoise. En fait, c'est une Canadienne d'origine chinoise qui est en vacances dans la région de Los Angeles. Elisa Lam, elle a dans la vingtaine et... Le 26 janvier, elle disparaît. Elle appelle ses parents tous les soirs. Hein. Elle vient de la Colombie-Britannique. Elle appelle ses parents tous les soirs. Et là, le soir du 26, absence. Elle ne téléphone pas, ni le 27, ni le 28. On commence à être inquiet. On appelle à l'hôtel Cécile où elle loge. Le célèbre hôtel Cécile à San Francisco. On raconte que même un tueur en série, Richard Ramirez, y aurait vécu pendant un certain temps. Oui, c'est un sympathique endroit. Donc, on appelle à l'hôtel Cécile. Et là, personne n'a vu Elisa depuis quelques jours. On commence à s'inquiéter. Et là, on regarde les bandes vidéo. Et c'est assez surprenant. Une des bandes vidéo, on retrouve des images d'Elisa datées du 26 janvier, où là, on la voit, elle est dans le corridor. Et probablement, les gens qui nous écoutent n'ont simplement qu'à taper dans leur moteur de recherche sur Internet Elisa Lam, ça s'écrit comme ça se prononce, Lam, L-A-M, et vont sûrement voir ces images. On la voit, c'est très étonnant. Elle est devant l'ascenseur, les portes sont ouvertes. Il y a une caméra à l'intérieur de l'ascenseur. Elle entre dans l'ascenseur, se colle sur le mur. Elle appuie sur tous les boutons. Elle ressaute dans le corridor. Elle regarde à gauche, à droite. Elle fait des mouvements avec ses mains. On a l'impression qu'elle voit quelque chose. C'est un comportement très atypique, presque psychotique. Elle rentre à nouveau dans l'ascenseur, se colle sur le mur, et là, ben évidemment, l'ascenseur va se rendre au rez-de-chaussée. Elle quitte l'ascenseur, et ce sont les dernières images que l'on va voir d'Elisa Lam. Son comportement est tout à fait singulier. Donc, elle disparaît. Le 31 janvier, date à laquelle elle doit quitter l'hôtel, elle ne se présente pas au bureau, au desk, comme on dit, pour faire sa sortie, son check-out.
Oui.
Elle n'est pas là. Et là, on s'étonne, on va dans sa chambre. Ses effets personnels sont toujours dans la chambre. Donc, le mystère d'Elisa Lam va perdurer pendant des jours. Et là, le côté un peu sordide de l'affaire, un mois après la disparition d'Elisa Lam, les gens de l'hôtel Cécile commencent à se plaindre que l'eau a un drôle de goût, l'eau du robinet.
Arrête.
Et oui, effectivement, tu me vois venir. Donc, les policiers, on commence à inspecter l'endroit, on fait venir des plombiers. D'où peut provenir ce goût âcre dans l'eau? On monte sur le toit de l'hôtel Cécile où il y a d'immenses réservoirs d'eau potable. Et c'est dans l'un de ces réservoirs qu'on va retrouver le corps d'Elisa. Elle est là depuis à peu près un mois. Évidemment, il y aura enquête policière. Les policiers excluent la possibilité d'une action criminelle. Visiblement, Elisa est elle-même montée sur le toit où elle a essayé d'entrer à l'intérieur des réservoirs où elle s'est visiblement noyée. Mais comment expliquer ces comportements étranges? Évidemment, les amateurs...
Je regarde la vidéo, c'est vrai que c'est bizarre, ça.
Ouais. Donc, les gens qui regardent cette vidéo-là vont tirer comme jugement. C'est vrai, étrange, on dirait qu'elle est possédée ou qu'elle voit des trucs. Mais il faut savoir qu'au rapport d'autopsie auquel j'ai eu accès, le rapport d'autopsie mentionne bien que Elisa Lam souffrait de problèmes de personnalité. Elle avait des troubles mentaux. Elle avait parfois des épisodes un peu psychotiques. Ouais. Elle prenait des médicaments pour se contrôler. Or, à l'autopsie, on a révélé que ce médicament-là était sous la dose normale qu'il aurait dû y avoir. Donc, visiblement, depuis quelques jours, Elisa Lam ne prenait plus ces médicaments. Ce qui pourrait expliquer ses comportements étrange, tout à fait étranges au moment où elle prend l'ascenseur. Est-ce qu'elle était dans une sorte de délire paranoïaque? Elle se croyait poursuivie et elle a essayé d'aller se cacher dans l'un de ces fameux réservoirs d'eau où elle a perdu pied, où elle s'est noyée. Ça reste difficile. Il n'y a pas d'éléments policiers qui permettent d'étayer un scénario là, tout à fait de A à Z de ce qui s'est passé. Mais les comportements anormaux d'Elisa Lam s'expliquent probablement par ses troubles mentaux, par sa maladie mentale, et probablement que c'est dans un délire psychotique qu'elle s'est retrouvée dans ce réservoir d'eau. Mais c'est vrai que c'est une affaire très mystérieuse.
Christian, la suite dans un instant, tout de suite après les nouvelles.
Oui.
La suite.
Oui, en fait, et là c'est notre grosse histoire du jour.
L'histoire du jour, c'est les événements qui ont mené à ce que l'on connaît de l'exorciste.
Voilà, alors je te ramène pratiquement jour pour jour, il y a 69 ans. On est à la mi-janvier 1949. L'affaire se passe au 3807 40e Avenue à Cottage City. C'est un petit bungalow qui est occupé par la famille Unkiller. Donc, on a les parents, le couple, qui ont un enfant unique, Ronald, et la grand-mère maternelle qui vit sur place. Et puis voilà qu'à la mi-janvier 1949, il commence à y avoir des coups frappés dans les murs et des grattements, surtout dans la chambre de la grand-mère. Et là, il y a un cadre. C'est une famille, il faut dire tout de suite que la famille Unkiller est une famille assez particulière, un peu dysfonctionnelle. Ce sont des luthériens. Ce sont des gens un peu bizarres. Hein. Ça donne également au spiritisme. L'une des tantes, d'ailleurs, la tante Tilly, aurait initié Ronald, le garçon, l'adolescent qui a 14 ans, elle l'aurait initié au spiritisme avec une planchette de Ouija. Les mauvaises langues disent qu'elle l'aurait initié à beaucoup plus que le Ouija, mais ça reste à démontrer. Donc, tu vois un peu genre. Et là, soudain, à cette mi-janvier, des coups frappés dans les murs, des grattements, des cadres se décrochent. Alors, on commence à être inquiet. Pourrait-il s'agir de revenants, de fantômes? Et dès le lendemain, ces manifestations se déplacent de la chambre de la grand-mère à la chambre de Ronald. Donc, le lit qui commence à vibrer, des objets qui se déplacent, des coups encore frappés dans les murs. La famille croit d'abord qu'il doit y avoir des rats ou des animaux qui ont trouvé leur refuge dans les murs de la maison. On fait appel à des dératiseurs, on fouille partout, on ne trouve rien. Et là, les manifestations s'amplifient. Alors, évidemment, on commence à penser au diable. On pense, est-ce que Ronald pourrait être possédé? Mais il faut savoir que chez les luthériens, il n'y a pas cette croyance de la possession diabolique. On en parle quand même à un prêtre luthérien et ça tombe plutôt bien parce que ce prêtre luthérien est assez ouvert à ces histoires. Il est passionné de parapsychologie. Hein, c'est le début de cette ère d'or, en fait l'âge d'or de la parapsychologie, fin des années 40, début des années 50. Alors ce père Schultz, lui s'intéresse à la parapsychologie. Il a même des échanges épistolaires avec le père de la parapsychologie qui s'appelle J.B. Rhines, qui dirige un département de recherche en parapsychologie en Caroline du Nord, à l'Université Duke de Caroline du Nord, et ils ont des échanges épistolaires. Alors, quand on lui parle, quand les Unkiller vont le voir, ils lui disent que dans la chambre de Ronnie, il y a des coups frappés dans les murs, des meubles qui bougent. Parfois, Ronnie, pris de convulsions, il lance des obscénités à l'endroit des gens qui sont autour de lui. Alors, le père Schultz se dit, c'est peut-être un phénomène de poltergeist. Évidemment, lui, il exclut la possibilité du diable. Ça n'existe pas dans la la culture luthérienne. Donc, il se présente chez les Honkeler. Il est témoin de quelques manifestations, coups dans les murs, tout ça. Il est persuadé que Ronald est au centre d'un type de manifestation bien connu en parapsychologie, bien documenté, qu'on appelle le poltergeist. Alors, le 17 janvier, il demande à la famille Honkeler s'il peut amener Ronald chez lui pour l'observer durant une nuit. Donc, il installe Ronald dans un lit, lui s'installe dans un fauteuil en coin, et là, soudain, Ronald se plaint qu'il ne peut pas s'endormir parce que le lit est... En fait, il bouge, il y a une espèce de vibration, comme si quelqu'un secouait les montants du lit. Alors, le père Schultz décide d'étendre sur le sol des couvertures, installe Ronald sur les couvertures, et là, les deux s'endorment. Et quelques heures après, le père Schultz, toujours installé dans son fauteuil, entend une espèce de suintement, ouvre les yeux, et là, il voit distinctement les couvertures, comme si elles étaient maintenues par des mains, être tirées sur le sol, alors que Ronald est endormi sur les couvertures. Alors, pour le père Schultz, il s'agit sans aucun doute d'un phénomène de poltergeist, un esprit, un revenant. Quoi qu'il en soit, il va rédiger un rapport et l'envoyer à J.B. Rhines, oui, persuadé d'avoir été témoin d'un phénomène extraordinaire de poltergeist. Le jeune Ronald retourne chez lui, mais les manifestations perdurent et ça devient de plus en plus obsédant. Au début du mois de février, il entre à l'hôpital de Georgetown, où on ne trouve absolument rien sur Ronald. Il ne souffre d'aucune maladie, ce n'est pas psychologique, il n'y a rien. Alors, les Honkeler sont de plus en plus consternés par ces manifestations. Et là, voilà que des marques apparaissent sur le corps du jeune Ronnie. Notamment, le mot « Louis » lui apparaît sur l'abdomen.
Louis.
Le mot « Louis ». La famille Honkeler habite à Cottage City, en banlieue de Washington, D.C., mais elle est originaire de Saint-Louis, au Missouri. Serait-ce une information, serait-ce une manifestation de l'au-delà, incitant les Honkeler à retourner à Saint-Louis? C'est ce qu'ils font. Ils vont donc aménager chez des parents qui ont toujours leurs assises à Saint-Louis. Ils vont aménager dans une maison de Roanoke Drive. Et là, l'affaire va déborder, en fait, du cadre familial, parce que là où ils habitent, chez des cousins, l'une des filles de la maisonnée fréquente l'université de Saint-Louis qui est administrée par des jésuites. Et on croit au diable chez les jésuites. Alors, elle en parle à des prêtres autour d'elle et là, finalement, ça monte en haut lieu. Des prêtres vont visiter la famille Honkeler qui loge chez ses cousins. Ils vont être à leur tour témoins de manifestations et finalement, ça va remonter jusqu'à l'archevêque, le père Ritter, qui va ordonner, autoriser l'exorciste. Il va charger il va charger un prêtre, un homme d'expérience, le père Barton, de s'occuper de cet exorcisme. Alors, les premières séances autour de ce jeune... écoute, je sais que comme 99% des Québécois, tu n'as probablement jamais vu le rituel de l'exorcisme écrit en latin.
Non, absolument pas.
Je te le montre ici, venant directement du Vatican.
Oui. Exorcimis et supplicanibus.
Ce sont des prières en latin et seul le Vatican a ses petits manuels.
Je vois que tu as un marqueur de page. C'est quoi? C'est le meilleur bout?
C'est le bout où moi, lorsque je reçois des jeunes femmes à la maison, je tente cette première prière.
Sors de ce corps, Boris!
Oh, on a quelques passages en tête, là, ici. Alors, les premiers rituels se font dans la maison de Roanoke Drive. Ensuite, ça va se faire à l'église Saint-François-Xavier et ensuite à l'hôpital des frères Alexian au 4e étage, dans une pièce spécialement aménagée. On va faire ce rituel qui va se poursuivre jusqu'en mars. Les prêtres seront témoins de certaines manifestations et éventuellement, à la mi-mars, les phénomènes vont s'arrêter. Le jeune Honkeler va dire « Je suis libéré » et à partir de là, il n'y aura pas d'autres manifestations. Et pourquoi l'histoire nous est connue aujourd'hui? Parce que l'un des prêtres jésuites qui était en contact avec les exorcistes va en parler à un jeune étudiant des années plus tard, un jeune étudiant du nom de William Peter Blatty, qui va utiliser cette trame-là pour son roman L'Exorciste, porté au cinéma à l'écran en 1973 et considéré comme le film le plus terrifiant de toute l'histoire.
Christian Page, merci infiniment.
Ça m'a fait plaisir.
On remet ça la semaine prochaine.
Oui, absolument.
Salut bien, au revoir. Salut.